Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, en parallèle de la présidentielle, les Brésiliens élisaient dimanche aussi leur gouverneur, député et sénateur.
Oui, pour renouveler dans son ensemble la Chambre des députés, un tiers des sièges de sénateurs et tous les gouverneurs et assemblées régionales du pays. Le Brésil est, rappelons-le, une fédération et compte 26 États, plus le district très particulier de la capitale Brasilia. Alors si Jair Bolsonaro est devancé par Lula de 6 millions de voix à la présidentielle, il a en revanche manifestement consolidé son ancrage local. Il est 1h45 à São Paulo, où vous êtes, Frédéric Louau. Bonjour.
Bonjour.
1h41 plutôt d'ailleurs. Vous êtes directeur du Centre d'études de la vie politique, le CEVIPOL, co-directeur du Centre d'études des Amériques à l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Si on regarde d'abord la carte du vote pour la présidentielle, la carte du vote Lula et celle du vote pour Jair Bolsonaro, est-ce que cette carte a évolué depuis les dernières élections? En 2018, on voyait bien que tout le sud et l'ouest du pays, le plus riche où la densité aussi est aussi plus faible, avait voté en faveur du candidat d'extrême droite. Est-ce que cette carte a changé?
Alors, la carte électorale, finalement, est restée très stable entre 2018 et 2022. Et je dirais même au-delà de 2018, depuis 2006, on a une carte électorale qui sépare le Brésil en deux, avec le nord et le nord-est du pays qui sont favorables très largement à l'ancien président Lula et au Parti des Travailleurs. Et de l'autre côté, Jair Bolsonaro, qui en 2022 comme en 2018 est largement dominant dans les États du Sud et du Sud-Est, et ce qui d'ailleurs était déjà le cas pour les candidats qui s'opposaient au Parti des Travailleurs déjà en 2006, en 2010 et en 2014. Donc on a un maintien de la géographie électorale et un renforcement de la polarisation politique, c'est-à-dire que Lula est très très loin devant son adversaire dans le Nord-Est et Jair Bolsonaro remporte facilement les États du Sud.
En ce qui concerne les gouverneurs, puisque les Brésiliens et Brésiliennes votaient aussi dimanche pour les gouverneurs des 27 États de la Fédération, donc 26 plus le district fédéral de Brasilia, ces gouverneurs sont élus par un vote majoritaire à deux tours. Certains ont déjà gagné dès le premier tour. Et qui? Plutôt des soutiens de Jair Bolsonaro ou de Lula? Parce que chacun commence à déjà se positionner en vue du deuxième tour.
Oui, alors ces élections pour les postes de gouverneur nous disent déjà pas mal de choses sur les rapports de force au Brésil et sur l'enracinement du mouvement politique qui a été développé depuis 2018 par Jair Bolsonaro. Dans 14 des 27 États, l'élection s'est résolue dès le premier tour. Et on se rend compte que les candidats qui soutenaient Jair Bolsonaro, qui sont alignés au bolsonarisme, ont eu de très bons résultats, notamment avec Romeu Zema, qui a été réélu dans l'État du Minas Gerais, qui est un État très important pour les élections brésiliennes. C'est un État clé pour remporter ensuite l'élection présidentielle. On a vu Claudio Castro, qui est le gouverneur sortant de Rio de Janeiro, qui a lui aussi été réélu dès le premier tour, ou Ibanez Rocha, dans le district fédéral de Brasilia, qui a également remporté l'élection au premier tour. Donc trois États importants qui sont vraiment acquis à Jair Bolsonaro. Et de manière plus large, on se rend compte que le bolsonarisme est très bien implanté, avec des candidats qui sont en ballotage favorable pour le second tour dans la plupart des États du Sud, du Sud-Est. Et à l'inverse, on voit le Parti des Travailleurs qui a remporté dès le premier tour trois petits États du Nord-Est, mais plus largement que les forces politiques de gauche sont dominantes dans le Nord-Est du pays.
D'ailleurs, vous parlez de forces politiques de gauche. Est-ce que les gouverneurs de gauche élus dès le premier tour sont du Parti des Travailleurs de Lula ou de la coalition de gauche que Lula avait réunie derrière lui pour ces élections? Autrement dit, que disent les résultats de l'ancrage local du Parti des Travailleurs qui s'est beaucoup effrité ces dernières années?
Oui, on remarque que l'anti-PT qui s'était structuré aussi en 2018 et qui avait beaucoup fragilisé politiquement le Parti des Travailleurs et qui d'ailleurs s'était prolongé jusqu'aux élections locales de 2020 avec une forte poussée conservatrice, se prolonge. Toutefois, le PT a déjà remporté trois États, l'État du Ceará, l'État du Rio Grande do Norte, l'État du Piauí, mais qui sont des États qui sont moins puissants démographiquement et politiquement, et que les autres États du Nord-Est qui ont été remportés par la gauche au premier tour l'ont été par des candidats qui sont plutôt proches du Parti des Travailleurs, mais qui sont d'autres partis politiques, comme le Parti Socialiste Brésilien, par exemple. Alors, il y a un autre État qui va être important, qui est l'État de Bahia, qui est l'État le plus peuplé du Nord et du Nord-Est du Brésil, pour lequel il va y avoir un deuxième tour entre un candidat du Parti des travailleurs, Geronimo, et un candidat de la droite traditionnelle, Antonio Carlos Magalhães Neto. Donc cette élection dans l'état de Bahia va être très importante pour le PT au second tour le 30 octobre.
Une autre élection importante, celle de San Paolo, où vous êtes d'ailleurs aujourd'hui Frédéric Luo, qui est le plus riche de la fédération, un tiers du PIB à lui seul. Et là aussi, Lula, il y avait un candidat favori, Fernando Haddad, candidat d'ailleurs du Parti des travailleurs à la présidentielle de 2018, face à l'ancien ministre des infrastructures de Jair Bolsonaro. Là encore, il y aura un second tour, donc encore beaucoup de cartes à rebattre peut-être le 30 octobre. Les élections locales au Brésil, c'était aussi dimanche celle des sénateurs et des députés. 28 000 candidats, tous scrutins confondus, davantage de femmes, de noirs, de métis, de représentants des peuples autochtones que lors des précédents scrutins. En ce qui concerne la Chambre des députés, Frédéric Luo, le parti libéral de Jair Bolsonaro a conquis 99 sièges sur 513. Pourquoi dit-on que c'est la première place ?
Alors, c'est la première place parce que aucun autre parti n'a obtenu plus de sièges que ce PL, le Parti libéral de Jair Bolsonaro.
Donc il est très fragmenté, ce congrès. Et on dit que c'est un bon résultat parce que...
Oui, tout à fait. Un congrès fragmenté. Il y a plus de 25 partis qui sont représentés. Et depuis 1998, jamais un parti politique n'avait obtenu autant de sièges pour l'élection législative. À titre de comparaison, hein, par rapport à 2018, le parti de Bolsonaro remporte 23 sièges supplémentaires. Alors que le Parti des Travailleurs, qui lui aussi progresse hein, à la Chambre des députés, ne progresse lui que de 12 sièges. Et donc lorsqu'on regarde finalement plus largement, hein, lorsqu'on dézoome un petit peu et qu'on observe les alliances politiques entre la droite bolsonariste et la gauche au Brésil à la Chambre des députés, on se rend compte que la droite obtient entre 250 et 270 sièges pour l'instant, donc qui sont prêts à gouverner avec Jair Bolsonaro, tandis que l'alliance de gauche réunit environ 120 à 140 députés. Alors les chiffres sont pas encore très stabilisés puisqu'il y a une partie des députés qui peuvent encore faire évoluer leurs préférences en fonction aussi de l'élection présidentielle, des députés qu'on appelle plutôt pragmatiques et qui pourraient gouverner avec l'un ou l'autre des présidents en fonction de l'élection du second tour le 30 octobre.
Et ce sont ces députés du gros centre, comme on dit, Centrão, qui rassemblent une multitude de formations plus opportunistes peut-être qu'idéologues. Baptiste Muckensturm.
Oui, Frédéric Luo, est-ce que parmi les députés bolsonaristes, il y a des nouvelles figures ou des figures inattendues ?
Alors, en effet, il y a des nouvelles figures et on observe qu'il y a un prolongement hein, de cette poussée conservatrice et donc une Chambre des députés qui est finalement, depuis plusieurs scrutins, à chaque scrutin plus conservatrice qu'au scrutin précédent. En ce qui concerne cette élection de 2022, il y a un chiffre hein, qui est assez intéressant, c'est que sur les 10 députés qui ont été le mieux élus au Brésil, 9 sont du Parti libéral de Jair Bolsonaro et parmi eux, la plupart sont des jeunes qui représentent finalement un nouveau conservatisme au Brésil. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être Nicolas Ferreira, qui est le député le mieux élu au Brésil pour cette élection. Il a obtenu à lui seul 1,5 million de votes. Il a 26 ans, c'est un YouTuber qui vient du Minas Gerais et il s'est fait connaître sur ses posts YouTube avec des vidéos qui dénonçaient notamment les politiques que les gouverneurs, notamment le gouverneur de Minas Gerais, souhaitaient imposer pendant la pandémie, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque. Il s'est fait aussi connaître pour ses positions très conservatrices. Hein, il se présente comme un chrétien conservateur sur les questions de société, sur les questions du mariage homosexuel, par exemple. Hein, il s'opposait fortement contre le mariage de personnes de même sexe, contre les droits pour les populations LGBT. Donc voilà, c'est un hyper-conservatisme chrétien et c'est ce genre de figure hein, des jeunes conservateurs radicaux très présents sur les réseaux sociaux qui entrent aussi de manière très puissante pour incruster le bolsonarisme pour de nombreuses années hein, dans le paysage politique brésilien.
Tout comme le ministre de la Santé de Jair Bolsonaro, le général Eduardo Pazuello, élu donc député à Rio, qui était donc responsable de la gestion de la pandémie qui a fait 680 000 morts. Ils ont été plusieurs à succéder à ce poste, mais voilà le bilan aujourd'hui. Ricardo Salles, l'ancien ministre de l'Environnement de Jair Bolsonaro, détesté des écologistes et qui le leur rend bien et qui a sur son dos deux enquêtes ouvertes contre lui pour la sur la déforestation en Amazonie, il a été élu à São Paulo. Et au Parti des Travailleurs, cette fois pour la gauche brésilienne en général, est-ce que ont été élus dimanche des figures capables de tenir tête aux personnalités bolsonaristes?
Alors oui, il y a eu des personnalités hein, du Parti des Travailleurs qui se sont renforcées, notamment la présidente du Parti des Travailleurs, Gleisi Hoffmann, ou d'autres anciens députés du PT qui ont été réélus, ou même si on ouvre un petit peu aussi hein, aux alliés du PT, des anciennes figures politiques qui vont pouvoir peser aussi dans les débats politiques. Hein, notamment, vous parliez de Ricardo Salles, l'ancien ministre de l'Environnement. Il y a une autre ancienne ministre de l'Environnement de Lula, Marina Silva, qui va aussi siéger à la Chambre des députés. Donc on va pouvoir voir aussi sur la question environnementale des débats très puissants à l'Assemblée nationale entre des options complètement antagoniques et des projets de société très opposés. Ça promet des débats importants, mais on remarque quand même malgré tout que les députés du PT sont des députés plus expérimentés, que le PT n'a pas su non plus complètement renouveler son personnel politique et que les députés qui arrivent, qui sont plus jeunes et qui contribuent au renouvellement sont paradoxalement des députés qui viennent de la droite de l'échiquier politique. Et je dis paradoxalement parce que dans l'histoire politique du Brésil, le renouvellement arrivé plutôt par la gauche de l'échiquier politique jusqu'aux élections de 2018 et maintenant de 2022.
Alors à gauche, on peut également citer l'entrée à l'Assemblée. Dites-moi si je me trompe, Guilherme Boulos a été élu du mouvement des Sans-Toi, c'est ça? Et puis deux députés transgenres, Duda Salabert et Erika Hilton.
Oui, tout à fait. Guilherme Boulos, bon, c'est une personnalité politique assez connue. On la présente un petit peu comme le nouveau Lula, qui est lui du Parti Socialisme et Liberté, d'un parti plus à gauche du Parti des Travailleurs, et qui avait été candidat à l'élection présidentielle aussi en 2018. Et donc ça, ce sont des personnalités aussi qui vont pouvoir orienter aussi les débats. Et bon, il y a beaucoup de députés qui sont aussi moins connus, hein, qui vont être très présents. Mais ce qu'on retient quand même, c'est que les députés qui vont être les plus présents et les plus visibles, et même au niveau du Sénat, hein, parce que le Congrès brésilien est divisé entre une Chambre des députés et un Sénat, que ce sont les anciens ministres de Jair Bolsonaro qui tiennent la tête de l'affiche. Hein, vous en avez présenté quelques-uns. Il y en a d'autres, hein, comme le juge Sergio Moro, qui était le juge qui avait mis Lula en prison,
Ah, on vous a perdu, Frédéric.
Qui est devenu sénateur, ou le juge Deltan Dallagnol, hein, qui était un autre juge.
Frédéric Louau, on vous a perdu. La liaison avec São Paulo est un petit peu compliquée ce matin. Oui, la liaison, est-ce qu'on va la retrouver? Vous étiez en train d'évoquer les sénateurs bolsonaristes qui ont été élus également dimanche, parce que le Parti libéral de Jair Bolsonaro a obtenu 13 sièges au Sénat. Le Sénat en compte 81, il s'agissait d'en renouveler le tiers, donc le Parti libéral de Bolsonaro en a obtenu 13, contre seulement 8 pour le Parti des Travailleurs de Lula. Et donc le Parti libéral devient la première formation à la Chambre haute. Frédéric Louau, on vous a retrouvé, donc je peux vous laisser conclure sur ce que vous étiez en train de dire sur le Sénat, le rôle qu'aura le Sénat et la Chambre des députés aussi dans le système politique brésilien les prochaines années, quel que soit le résultat de la présidentielle.
Oui, on retrouve au Sénat aussi des anciennes figures du bolsonarisme qui ont été ministres d'ailleurs de Bolsonaro, Damares Alves qui a été sa ministre de la famille et de la femme, Marcos Pontes, l'astronaute, ancien ministre des sciences et technologies, Teresa Cristina, la ministre de l'agriculture, et d'autres personnalités politiques très puissantes hein, comme le juge Sergio Moro, le pasteur Magno Malta ou l'ancien footballeur Romario, qui constituent la base, la structure du bolsonarisme pour le prochain mandat.
Et on verra si le président actuel du Sénat, qui est un centriste, peut être maintenu à son poste. Donc deuxième tour, ce sera le 30 octobre au Brésil. Je vous remercie beaucoup Frédéric Louau d'avoir été avec nous en direct de São Paulo, où il est 1h55 du matin. Et je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études de la vie politique, le CEVIPOL, co-directeur du Centre d'études des Amériques à l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et de nouveaux enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h40.
France Culture, l'esprit d'ouverture.